Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15.
Amis sportifs et sportives, bienvenue à toutes et à tous. C'est le troisième numéro du débrief, votre rendez-vous hebdomadaire avec Radio VFM et Foot Normand. On va parler foot, évidemment. On va revenir dans un instant sur le derby qui nous a passionnés au stade Michel Dornano samedi soir entre Caen et Le Havre. Mes compagnons de jeu aujourd'hui, Mathieu Billot de Foot Normand. Salut Mathieu.
Salut Christophe, salut à tous.
Et Régis Picot de Radio VFM. Salut Régis.
Salut à tous.
Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VFM et le foot normand.
Le derby, c'était donc samedi à Dornano, plus de 16 000 supporters pour cette 12e journée de Ligue 2. Deux buts partout, pas de vainqueur donc entre Caen et Le Havre. Boutaïb et Ba ont marqué pour les Havrais. Mendy et Chahiri pour le stade Malherbe de Caen. Bon, voilà, deux buts partout. On se quitte bons amis, Mathieu.
Oui, on va dire ça comme ça. Les deux équipes auraient pu l'emporter au regard du scénario. Et au final, ça se conclut sur un match nul. Et du coup, ce derby, on va en discuter dans cette première partie avec Seb Toussaint, le capot de la tribune Borély. Salut Seb.
Bonjour à tous.
Ça va bien? T'as récupéré ta voix?
Ouais, à peu près. Pas à 100%, mais ça va venir là, au courant de la journée.
D'accord, ok. Seb, comment tu... Pour toi, c'est quoi? C'est un bon ou c'est un mauvais point qu'a pris le Stade Malherbe contre le HAC samedi soir?
Ouais, c'est pas un mauvais point, mais c'est un petit peu frustrant quand même, sachant que le deuxième but, on n'avait peut-être pas à se le prendre. Et donc on passe à côté de trois points qui auraient été quand même sympas. Donc un peu de frustration, mais au final... C'est deux équipes qui auraient pu l'emporter, hein, comme vous avez dit. Donc c'est pas non plus immérité qu'il y ait un match nul entre ces deux équipes-là ce soir-là. Quoi.
Salut Seb. Effectivement, on l'évoquait en préambule, Le Havre a scoré par Boutaïb sur sa première occasion dès la 8e minute de jeu, quand était alors mené 1-0. Quand est revenu dans le match, l'égalisation d'Alexandre Mendy à la 31e. Quand est passé devant par l'intermédiaire de Chahiri à la 58e, avant de concéder un nouveau but par Ba à la 68e. Vous êtes passé en fait un peu par tous les sentiments dans cette rencontre.
Ouais, c'est un peu ça, parce qu'à la fois on s'est fait mener, puis on a mené. L'égalisation, ouais, il y a eu beaucoup d'émotions, c'est un petit peu ce qu'on attend d'un derby aussi. Alors j'étais quand même content que ça se termine 2-2 et non 0-0, ça aurait été dommage, même si au final ça aurait fait un point quand même. Oui, bah ça s'est senti, hein, je pense, dans le stade, la tribune, enfin toutes les tribunes même sont passées par plein d'émotions. C'était un match assez mouvementé de manière générale, ouais.
Régis Picot, Radio VFM.
Oui, bonjour Sébastien. Un mot sur votre réaction, parce que l'égalisation vient d'une bourde, hein, d'un des joueurs canés, Prince Onyangé, une mésentente aussi avec Ali Abdi. Donc comment on vit ça quand on voit une telle bourde sur le terrain, surtout que c'est pas la première des canés depuis cette saison. Et puis l'année dernière également, ça doit être pénible, frustrant, rageant.
Hein. Ouais, je crois que c'est rageant. C'est rageant pour nous tous, hein, qu'on soit journaliste ou supporter ou peu importe. Mais le truc, je crois que c'est qu'il faut assez rapidement enchaîner sur un nouveau champ, encourager l'équipe, parce que justement, au moment où on est au plus bas et où ces deux défenseurs-là, notamment, se sentent, à mon avis, assez mal dans leur tête à ce moment-là, si on est là juste en train de critiquer, siffler ou faire des huées comme ça depuis les tribunes, ça n'arrange rien en fait. Et il reste encore 20 minutes à jouer, donc il faut juste se dire c'est pas terminé, on continue, on encourage et on sait jamais ce qui peut se passer, quoi.
Oui, on va revenir sur ce deuxième but, hein, qui est, on va dire, peut-être responsabilité partagée quand même avec Ali Abdi. Prince Onyangé quand même est trompé par le comportement de son coéquipier là, qui dans un premier temps part pour prendre le ballon de la tête et au dernier moment s'efface, ce qui piège Prince Onyangé. La défense canaise, il y a des lacunes, on va dire, des lacunes individuelles, des lacunes collectives. Je pense que le club attend beaucoup quand même des retours de blessures d'Ibrahim Cissé, qui était le défenseur recruté à Dunkerque lors du dernier jour du mercato. Il était blessé ces dernières semaines, il a repris le footing. Il devrait revenir peut-être ce week-end à Dunkerque, ça va être juste, mais d'ici deux semaines. Et il y a aussi Hugo van der Merch, alors lui qui est blessé depuis plus longtemps. Il a eu une rupture des ligaments croisés début mai. Son retour espéré courant novembre, et le club compte aussi beaucoup sur lui, même si bien sûr il ne faudra peut-être pas non plus attendre énormément dans un premier temps. Hein. Il revient d'une blessure de 6 mois, mais Le club compte quand même beaucoup sur ces deux joueurs pour solidifier son bloc défensif. Est-ce que les supporters attendent aussi un petit peu le retour de ces deux joueurs, Seb?
Ouais, bien sûr. Bah, Hugo van der Merch, on était très très triste pour lui quand il s'est blessé. C'est vraiment la grosse blessure du footballeur qui nous a beaucoup attristé. Surtout que c'est un gars qui nous a plu par le passé. Et puis si c'est, on verra bien. Mais évidemment, on voit bien qu'il y a un problème en défense. C'est surtout là d'ailleurs qu'il y a un gros chantier. Donc toute nouveauté, tout nouveau joueur qui peut arriver dans l'effectif va être une bonne nouvelle, en tout cas pour voir quelle solution l'entraîneur a. Et puis de toute façon, je crois que l'année prochaine, il faudra quand même recruter vraiment dans ce secteur-là, quoi qu'il arrive. Ouais.
Seb, je rappelle que vous êtes capot de la tribune Borély. Alors avec vous, on va évidemment parler dans le débrief ce lundi de l'ambiance autour de Scan Le Havre, parce qu'en marge du sportif, on a assisté à quelque chose d'extraordinaire avec la présence de 16 729 spectateurs, record d'affluence en Ligue 2 évidemment. On n'avait pas connu ça depuis plus de 2 ans, on était encore en Ligue 1 à l'époque, même si c'est un match de sinistre mémoire puisque c'était face à Bordeaux, match synonyme de descente. Mais quand même, c'est quelque chose de pas banal, Seb, cette ambiance exceptionnelle qu'on a tous vécu samedi soir.
Ouais, absolument. Et c'est ça qui est bien avec ce genre de derby. On peut avoir beaucoup de monde dans le stade et ça fait du bien. Après, il y a eu des bonnes ambiances cette saison, même sur des matchs assez lambda. Je me souviens par exemple de Rodez ou autre. Et donc, en fait, on est un peu en train de continuer sur une lancée comme ça. Je crois que les gens sont très contents de revenir au stade après tout cet épisode Covid où on n'a pas pu fréquenter le stade. Et puis juste, il y a un public à Malherbe, quoi. C'est vraiment un des clubs en Ligue 2 où il y a vraiment du monde qui est intéressé par son club, et donc j'espère que les résultats pourront suivre et être un petit peu plus à la hauteur de nos espérances, parce que je pense qu'on peut avoir des ambiances vraiment vraiment bonnes durant le reste de la saison et la saison prochaine également. On a un public très très chaud quand même à Malherbe.
Ouais, Seb, tu y fais référence à l'ambiance depuis le début de la saison à Dornano. C'est vrai que l'équipe de Stéphane Moulin bénéficie d'un soutien quasi inconditionnel de la part des supporters et notamment du MNK. Malgré des résultats qui ne sont pas toujours probants, notamment à domicile, parce qu'il n'y a que 2 victoires, 1 nul et 4 défaites. Alors on rappelle qu'il y a, dans ce bilan-là, il y a le match de Dijon où le SMK n'a pas été aidé par l'arbitrage. Mais on a l'impression que les supporters, avec ce nouveau projet, donc incarné par le président Olivier Piqueux et maintenant le coach Stéphane Moulin, les supporters sont prêts à se montrer patients avec cette équipe. Est-ce que c'est aussi ton ressenti des tribunes ?
Ouais, je pense que toute personne qui est en Normandie, qui est allée au stade et qui n'est pas patiente, ne vient plus au stade maintenant, parce qu'en fait, ça fait déjà quelques saisons qu'on voit un football qui est vraiment pas de qualité terrible, on attend que quelque chose se passe, on est en éternelle reconstruction, etc. Alors, s'il y en a qui sont pas patients, je crois qu'ils sont déjà plus là, et donc ceux qui sont en tribune sont des gens patients. Cela dit, il va falloir quand même que ça bouge à un moment donné, parce que il faut qu'on ait des moments euphoriques, quoi. On vient au foot aussi pour des émotions. Après, je crois que l'état d'esprit en général, c'est déjà nous, en tribune, faisons ce que nous on peut faire, c'est-à-dire encourager les joueurs, créer une ambiance sympa. On sait que plus il y a une ambiance sympa, plus il y a de monde qui vient au stade, et plus il y a de monde qui vient au stade, et plus l'ambiance est encore meilleure. Et donc, nous déjà, on peut travailler sur cet axe-là, parce que c'est quelque chose que nous, on peut faire. Nous, on n'est pas sur le terrain, donc faisons déjà notre job. On apporte notre pierre à l'édifice dans un projet global. On sait très bien, et ça c'est une bonne chose, que le club en général considère les supporters comme faisant partie de la grande famille Malherbe. Et donc on a notre place et on doit jouer notre rôle. Donc nous déjà faisons notre rôle et puis on verra ce qui ira, où on terminera, notamment peut-être au terme de la saison prochaine, quoi.
Ouais, Régis Picot, on va revenir un instant sur l'ambiance qui règne à Dornano samedi soir, parce qu'on l'a dit, 16 729 spectateurs, record d'affluence, évidemment une grande majorité de Canet, mais il faut le souligner aussi, il y avait plus de 1000 Havrais qui avaient pris place dans les tribunes de Dornano, et derby oblige, ça nous a valu quelques échanges entre les deux camps.
Eh bien oui, en marge du sportif, on a assisté à quelque chose d'extraordinaire avec la présence de 16 729 spectateurs, record d'affluence en Ligue 2, quelque chose de pas banal, hein, ambiance extraordinaire. Il y a eu le passage aussi avec les banderoles, les supporters havrais ont déployé, et on va faire une banderole simple en utilisant des mots simples parce que vous êtes trop cons, référence à Orelsan, le rappeur originaire de Caen. Et dans la foulée, les supporters canets ont déployé, on a Orelsan, vous avez Little Bob Story, un chanteur havrais d'une autre génération, il faut quand même le dire. Bref, Seb, c'est quand même une ambiance particulière, ces derbies, et de retrouver comme ça ces copes qui se répondent, ça fait plaisir.
Ça fait plaisir parce que en Ligue 2, on est quand même habitué à des parkages extérieurs, des tribunes extérieures très vides. Là, d'avoir du monde en face, je crois que ça réveille encore plus notre tribune, parce qu'il y a, il y a une opposition. Et puis, bon, bah, on était prêts dans les champs, mais aussi dans les banderoles, comme vous l'avez dit. Ouais.
Seb, moi j'ai juste une question qui me vient à l'esprit parce que Régis Picot évoquait effectivement cette réponse des supporters d'un camp à l'autre. Quand l'un fait référence à Orelsan, l'autre répond sur Orelsan. On peut se poser la question en fait, c'est préparé ou pas ce genre de banderole ?
On peut pas répondre. Voilà, il y a des choses qui sont de l'ordre du privé, mais évidemment qu'il y a toujours des moyens d'avoir des informations. Il y a toujours voilà, le match il est en tribune, mais il se prépare aussi avant, donc voilà, on sait ce qu'on a à faire et on joue ce match-là. C'est un match sympa que nous on peut jouer avec les supporters adverses. Après,
je vous voyais mal, vous savez, attendre la banderole des supporters à vrai, faisant référence à Orelsan, ouais. Et puis prendre la vôtre et écrire au feutre la réponse pendant le match. Ça, rassurez-nous, ça se passe pas comme ça.
Non, mais on a des informations, on essaye de faire comme on peut pour gratter un petit peu les informations, etc. Mais bon, je ne révélerai pas tous les secrets, non, évidemment.
Non, c'est comme un chef cuistot, il ne révèle jamais les secrets de sa recette. Mathieu, foot normand.
Ouais, en tout cas, c'est excellent des deux côtés, hein, faut le signaler. C'était un derby, l'ambiance était électrique, comme il fallait, hein, pas plus, pas moins. Il y a juste eu ce petit moment là où la rencontre a été brièvement interrompue par l'arbitre au cœur de la seconde période. Il y a eu quelques jets de boulettes de papier, de bouteilles d'eau dans la surface de réparation du gardien Avray, Yaya Fofana. On a vu un petit peu aussi Rémi Rioux prendre le mégaphone. Il y a Johan Eudeline aussi qui est venu un petit peu vous parler. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, Seb ? Comment t'as vu les choses, toi ?
Alors je sais pas si j'imagine que beaucoup de gens étaient en train de regarder le but, puis la célébration de but, etc. de l'autre côté du terrain, mais ceux qui regardaient de ce côté-là du terrain ont bien remarqué le comportement du gardien Avray Fofana, qui a été extrêmement provocateur vis-à-vis des supporters cannais juste après le but, et il célébrait ça comme s'il avait gagné avec des champions, et surtout il s'est tourné vers le public, un petit doigt d'honneur qui a été bien vu, et puis il a shooté dans une bouteille, puis ensuite il a ramassé une des bouteilles qui lui a été lancée, donc la réaction d'une foule qui est déjà un peu électrique à un jour de derby, et il a rebalancé une bouteille dans le public, c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est pris un jaune, je crois, juste après. J'étais d'ailleurs surpris que ce soit un jaune, parce que je pense que s'il y a des gens qui se font choper à la caméra parce qu'ils ont lancé des bouteilles, ils seront exclus du stade. Je comprends pas vraiment que le gardien Avray, qui clairement a été vu en train de lancer une bouteille, n'a pas été expulsé. Enfin, peu importe, mais c'était. Je pense que tout le monde a remarqué qu'il n'y a pas eu de chambrage particulier ou particulièrement insultant quand le gardien Avray est arrivé dans le but qui est devant le COP. C'est vraiment la provocation qu'il a faite lui-même après le but Avray qui a provoqué ça. Mais je pense que c'est assez clair pour tous les gens qui avaient le regard tourné vers le COP à ce moment-là, ouais.
C'est vrai qu'on a tout eu, hein, Mathieu, dans ce derby, des buts, de l'électricité sur le terrain et en dehors, une interruption pour jet de projectile, on y faisait référence, on a même eu un changement d'arbitre.
Oui, l'arbitre qui s'est blessé au bout de même pas dizaine de minutes. D'ailleurs, ça a un peu coupé le match. Hein, ça a eu du mal derrière un peu à repartir. Moi, je voulais juste revenir sur ce moment. Et du coup, il vous dit quoi, Rémi Rioux, là, quand il prend le mégaphone ou Yo Eudeline quand il vient vous parler? C'est quoi? Il vous dit juste faut se calmer. C'est quoi un petit peu la teneur du discours à ce moment-là?
Ouais, il dit qu'il faut se calmer parce qu'on voudrait pas que le match soit annulé, soit complètement arrêté. Donc voilà, il faut arrêter. Donc on a fait passer le message évidemment au reste de la tribune parce que tout le monde n'entendait pas exactement quand ils étaient en train de parler au mégaphone parce qu'il y avait tellement de bruit dans la tribune à ce moment-là. Mais et donc il n'y a pas eu de projectile lancé par la suite. Et le match a pu reprendre. Il n'y a pas eu d'interruption plus que ça. Non.
On précise juste que c'est vraiment une petite broutille, hein, je veux dire, c'est rien de dramatique ce qui s'est passé à Dornano, c'est vraiment, on va dire, ça reste dans l'esprit, on peut dire, voilà, c'est rien de comparable avec les événements qu'on a pu connaître sur d'autres stades en France. On peut saluer le comportement des supporters des deux camps, vraiment, qui ont vraiment joué le jeu sur ce derby.
On va revenir sur le sportif, mais d'une façon peut-être plus globale, Régis, puisqu'on a la chance d'avoir Seb, le capot de la Borélie, avec nous aujourd'hui.
Oui, Sébastien, qu'est-ce que vous inspire le nouveau projet du Stade Malherbe porté par le président Piqueux, qui a véritablement débuté avec l'arrivée de Stéphane Moulin cet été? Vous êtes confiant à l'avenir du Stade Malherbe?
Oui, déjà le fait qu'il y ait un projet qui s'étale sur plusieurs années, parce qu'on voit bien que Stéphane Moulin n'est pas venu là pour une saison, pour sauver des meubles, il est venu là pour du long terme, il est venu là aussi pour l'humain. parce qu'il était avec Olivier Piqueux. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. En plus, je pense que c'est un très bon entraîneur. Et puis, pour revenir un peu à la question de la patience, on est obligé d'être patient parce qu'il a un effectif qu'il n'a pas vraiment choisi, ou en tout cas en majorité qu'il n'a pas choisi. Et c'est quand même une équipe qui a terminé dans le fond de la Ligue 2 la saison prochaine. Donc je pense que c'est pour ça qu'il faut au moins attendre l'été prochain avant de voir peut-être des gros changements. Mais déjà, dans l'état d'esprit, je pense qu'on est plutôt satisfait. D'avoir un vrai projet sur le long terme, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, évidemment, on est toujours dans l'expectative, mais c'est plutôt quand même une bonne nouvelle, ça nous réjouit, et puis on veut participer à ça, et on espère retrouver la Ligue 1 le plus vite possible, quoi.
On va faire une petite aparté et parler plus spécialement de toi, parce que tu n'es pas seulement que capot de la tribune Borély, tu es surtout un street artiste, donc tous les supporters de Malherbe le savent, hein, parce que tu as notamment, on va dire, relooké la tribune Borély il y a quelques années, et c'est assez magnifique, et donc tu fais des graphes un petit peu partout dans le monde, hein, tu mènes aussi des projets humanitaires à travers ça, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot ?
Oui, alors c'est pas des projets que je considère humanitaires, c'est des projets qui ont un impact social, mais c'est un projet artistique tout simplement. C'est depuis 8 ans, je travaille sur un projet qui s'appelle Share the Word Project, partager le mot, et qui se déroule par épisode de 1 mois à chaque fois dans des camps de réfugiés et des bidonvilles à travers le monde. Et en fait, ce que je fais, c'est que je peins des fresques qui contiennent à chaque fois un mot, et c'est un mot qu'un habitant du quartier ou du camp de réfugiés a choisi. Ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que des gens qui ont très peu la parole en société ou dans les médias, ou etc., qu'est-ce qu'eux ont à dire, quels sont les mots et les histoires qui vont avec, qu'est-ce qu'eux ont à exprimer, puis ça apporte aussi du street art dans des quartiers qui en sont évidemment bien dépourvus, souvent. Et voilà, je travaille là-dessus depuis 8 ans, et puis en parallèle, je vends des toiles, je fais des fresques, et également en tribune Borély, pour ceux qui fréquentent la tribune Borély, qui ont pu voir depuis 2 ans maintenant les fresques qui ont été peintes dans les coursives.
Voilà, ceux qui veulent découvrir ton travail, qui ne le connaissent pas encore, ils peuvent aller en tribune Borély, parce que c'est vraiment magnifique, c'est vraiment chouette. Et du coup, tu as des projets de destination là pour les prochains mois? Il y a des étapes déjà qui sont cochées au calendrier?
Là, je suis revenu du Kyrgyzstan il y a même pas un mois, donc pour l'instant, j'ai du travail à faire ici en France, mais il y aura des destinations prochaines. En tout cas, voilà, c'est pas forcément des choses que je prépare très très longtemps à l'avance, parce que tout est fait de manière assez spontanée. Et puis de plus, on est quand même dans un monde où les pays peuvent mettre des quarantaines tout d'un coup, ou interdire des voyageurs, ou alors réouvrir leurs frontières. C'est assez dur d'y voir clair longtemps à l'avance. Donc ça ne sert à rien de trop se projeter, tout simplement. Quand je suis allé au Kyrgyzstan, j'ai réservé les billets 3 semaines avant. 4 semaines avant, je pensais aller au Botswana, et 5 semaines avant, je pensais aller au Bénin. Et en fait, les pays ont fermé leurs frontières, ont imposé des quarantaines. Donc j'ai dû m'adapter tout de suite.
Merci beaucoup, merci franchement Seb d'avoir été l'invité du débrief ce lundi avec Radio VFM et Foot Normand. C'est un vrai plaisir.
Merci à vous, puis allez Malherbe, et j'espère que la saison va nous apporter des victoires et pas juste des matchs nuls, notamment à domicile, pour réveiller un peu encore plus tout le public.
On l'espère évidemment. Salut Seb, et forcément à très vite à Dornano. Très vite Mathieu Pau. Pour finir, prochain rendez-vous avec Malherbe, évidemment qu'on en parle quand même, ça sera à Dunkerque le week-end prochain. Dunkerque qui a connu un début de saison extrêmement compliqué et qui s'est un petit peu réveillé avec notamment une victoire face à Valenciennes samedi. Il va quand même falloir prendre des points côté Canet.
Oui, il va falloir prendre des points. Encore une fois, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas d'urgence. Aujourd'hui, à ce stade de la saison, il n'y a pas de raison d'être inquiet pour le stade Malherbe. Il y a des choses très intéressantes qu'on peut voir sur le terrain. Il y a des erreurs malheureusement aujourd'hui qui malheureusement ternissent le bilan comptable. Mais voilà, c'est une bonne occasion de retrouver la victoire pour Malherbe sur un terrain pas facile et chez une ancienne connaissance, Malik Choukounté à la pointe de l'attaque dunkerquoise.
Effectivement, c'est peut-être curieux, mais grâce à ce partage des points, les deux équipes ont quand même progressé d'une place au terme de ce derby, puisque le Havre est seul 3e avec 21 points, tandis que Caen se retrouve dans la première moitié de tableau, 9e avec 15 points.
Oui, on précise quand même que ce soir, il y a un Nîmes Ajaccio, donc qui pourrait rebattre un peu les cartes au classement.
Faire évoluer effectivement un petit peu le classement. Merci à tous, on reste évidemment ensemble, on va continuer à parler de ce derby dans la deuxième partie avec le capot du HAC cette fois-ci. La suite du derby, c'est dans un instant dans le débrief.
Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VSM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15.